Cet évangile de Thomas, frères et sœurs, nous est bien connu à tel point que il a donné naissance à une expression populaire qui dit « Mais moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois ». Et s'il est un fil conducteur à travers ces lectures qui nous est donné en ce jour, c'est bien la question de la foi. Et plus j'avance dans la connaissance du Seigneur, plus je me dis que cette question de la foi est à la fois mystérieuse et centrale. Pourquoi certains ont la foi ? Ça ne peut pas se réduire simplement à des questions simplement psychologiques. Des questions psychologiques qui feraient que certains auraient besoin d'une béquille pour pouvoir marcher ou d'un soutien de remplacement et que ce monde ne leur suffirait pas. Il est bien des personnes qui sont fragiles psychologiquement, qui n'ont pas la foi, et des personnes qui au contraire sont bien construites et qui l'ont. Alors on se dit, mais même au sein d'une famille, entre frères et sœurs, on voit bien comment, alors que l'on a été élevé de la même manière, comment certains continuent dans le chemin de vie spirituelle et d'autres pas. Et on voit aussi le désir de nombreux parents chrétiens de transmettre cette foi, de faire que leurs enfants aussi accèdent à cette réalité spirituelle. Tout d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est que la foi. La foi, c'est un don de Dieu, et ça c'est important de se le dire. On ne se fabrique pas sa propre foi, c'est pas la méthode Coué à force de penser, alors que je suis en plein désert à 50 degrés, qu'il fait froid, et je termine par avoir froid. La foi, c'est pas ça. C'est pas à force de conviction que je crois. C'est d'abord un don. Mais en même temps, la foi, si elle est un don, est aussi ce qu'on appelle une vertu. Une vertu, c'est la vertu théologale, c'est-à-dire une force en nous qui a Dieu pour objectif, foi, espérance, charité. Et quand on dit vertu, on dit répétition des actes. Le fait, par exemple, d'être juste, c'est aussi une vertu. Le fait d'être juste, c'est une force en nous. Eh bien, ça s'acquiert par la répétition des actes de justice. De même pour la foi. S'il y a un don qui nous est fait, que faisons-nous du don qui nous est fait ? Est-ce que l'on accueille ce don vraiment comme une grâce particulière ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour développer ce don ? Un peu comme, et l'apôtre Saint Paul prend l'exemple des athlètes dans le stade, on voit dans des salles de musculation, on a tous des muscles, sauf cas particulier, on a les muscles, on a tout ce qu'il faut, mais le fait de faire travailler ces muscles, le fait de faire que ces muscles puissent prendre de la force, c'est le fruit d'un entraînement. Il en va de même pour la foi. Il y a une musculation spirituelle intérieure, des actes de foi. Des actes de foi qui consistent précisément à avoir un autre regard sur le monde. Parce que la foi, elle est d'abord dans le regard. Une certaine manière de regarder. Une certaine manière de découvrir au cœur même de cette réalité qui est la même pour tous. Et c'est ce qui a toujours interloqué les contemporains des premiers chrétiens. Ils disaient, mais ils font tout comme tout le monde. Ils payent les impôts à César ou dans les différentes cités romaines ou grecques où ils étaient, ou au bord de la Méditerranée. Ils font les choses comme nous. Mais simplement, le regard qu'ils posent sur la réalité n'est pas le même. Parce que la foi, c'est une question de regard. Je ne sais si vous avez prêté attention, la question de la vue est très importante dans ce récit évangélique. À la vue du Seigneur, ils se sont réjouis. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc on voit bien que c'est bien une question de regard, de voir. C'est ça la foi. La foi me permet de découvrir quelque chose qui est invisible aux yeux, j'allais dire aux yeux de chair. Quelque chose comme par exemple un signe, comme par exemple la présence du Seigneur au sein même de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que la présence de Dieu et la participation au sacrement nous aident justement à grandir dans cette dimension de foi. Une foi que l'on n'a pas entretenue et que on a laissé dans l'état du catéchisme, cette foi-là, on voit bien qu'elle n'a pas de force. Et on voit beaucoup de personnes qui ont beaucoup de bonne volonté, mais n'ont pas pris au sérieux le fait de construire aussi leur vie intérieure, et leur vie spirituelle, comme ils ont construit leur vie intellectuelle et professionnelle. Ça se travaille, la foi. Parce que la foi, si c'est une question de regard, la foi est dans l'intelligence. Et je crois que ça, c'est très important de la resituer là. Bien souvent, on entend le discours comme quoi la foi serait dans la sensibilité ou dans la volonté, à force du poignet, j'y crois, à force du poignet. Non, la foi, c'est dans l'intelligence, c'est l'affirmation de dire que la révélation de Dieu en Jésus-Christ, pour nous chrétiens, la révélation de Dieu, c'est vrai. C'est pas un mensonge, c'est ça la foi. C'est comme quand vous avez votre carte bleue, etc., la banque vous envoie le code secret et vous vous faites valider. Le code secret, c'est pas vous qui le donnez, c'est la banque. Mais le fait de valider, c'est bien vous. Et la foi, c'est comme cet acte de valider, je valide, eh bien, la parole du Seigneur qui m'a été donnée, j'y crois. Je dis que c'est vrai, c'est pas des mensonges, c'est pas des histoires à dormir debout. C'est ça que ça veut dire, croire. Et chaque fois que l'on communie, par exemple, au corps du Seigneur, et que l'on dit Amen, eh bien, on dit c'est vrai. Quand je vous donnerai le corps du Christ, pour ceux qui communieront, eh bien, vous dites Amen, c'est vrai, c'est le corps du Christ. Donc, c'est intéressant de voir que la foi, elle est dans l'intelligence et elle élève l'intelligence à une réalité supérieure, supérieure précisément au visible. Elle donne accès à l'intelligence à une réalité invisible. Ce qui veut dire aussi que nous avons à travailler intellectuellement sur notre foi, la connaître davantage. Bien souvent, beaucoup de personnes ne sont pas forcément opposées à la foi, ou rares sont les athées, j'allais dire, convaincus et pratiquants, il y en a de moins en moins, mais beaucoup de gens ignorent la foi. Et donc, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler, ça s'étudie, hein, comme le fait pour devenir n'importe quel métier, manuel ou intellectuel, demande un travail. Mais aussi, la foi nous permet, au fond, de découvrir, au cœur même du monde, la présence du Seigneur. Et ça, c'est tellement important de se dire, sans cette attitude de foi, eh bien, il y a quelque chose de ma vie spirituelle, eh bien, qui ne rentre pas en ligne de compte, qui ne va pas se développer. Maintenant, pourquoi est-ce que certains ont la foi et pourquoi d'autres ne l'ont pas? Je vous l'ai dit, c'est un don, mais aussi c'est une question de liberté. Parce que ce qui est assez étonnant dans la foi, c'est un peu comme un clair-obscur. Un peu comme un clair-obscur dans le sens où il y a à la fois quelque chose de lumineux, il y a quelque chose qui éclaire notre intelligence, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, si on pensait que c'était complètement une erreur, hein, de venir à la messe, si on pensait que c'était complètement faux, on ne serait pas là. Donc il y a quelque chose de vérité que l'on a capté, quelque chose, chacun selon son travail intérieur, sa vie spirituelle, là où il en est dans son chemin de foi, mais en même temps, il y a quelque chose d'obscur dans le sens où quelque chose qui est caché. Justement, c'est pas un spot de 1000 watts qui vient nous éclairer, nous aveugle. Non, il y a ce clair-obscur dans la foi, c'est ce que l'on appelle un régime d'indigence. C'est-à-dire, c'est faute du face-à-face, faute de mieux. Et ce mieux, c'est quoi? C'est le face-à-face avec Dieu. Donc on voit, c'est à la fois, on a une lumière pour croire et de dire, bah oui, ce que l'on croit là, c'est pas complètement contre l'intelligence. Une chose, c'est être croyant, autre chose, c'est être crédule, ça n'a rien à voir. Hein, les superstitions, ah, moi je crois dans les superstitions, moi j'ai ma croyance. Mais d'accord, mais il faut que ça s'enracine dans quelque chose qui mérite d'être cru. Hein, mais en même temps, on n'a pas une pleine lumière, parce que justement, on ne voit pas en totalité le mystère de Dieu. Ce qui fait que ce décalage d'ombre et de lumière va permettre au fond à la liberté de se prononcer. Si on était complètement dans l'ombre, on ne pourrait pas. Si on était complètement dans la lumière, bien, on ne peut que choisir. Mais cette alternative nous donne justement une capacité de libre de choisir. Et là, c'est là où je dis qu'il y a, il y a des choix dans notre vie. Vous savez, il y a peu de choix dans la vie. Il y a 3 choix qui sont capitaux. Premièrement, le choix, évidemment, de l'état de vie. Dans le mariage ou dans le sacerdoce, dans le célibat consacré, le choix ensuite de professionnel qui dirige un certain nombre de choses, et puis le choix de Dieu dans sa vie. Eh bien, chacun d'entre nous, on aura d'une manière ou d'une autre à faire le choix de Dieu, et c'est pas qu'une seule fois qu'on a à faire le choix de Dieu. Au contraire, c'est régulièrement qu'on a à refaire confiance, parce que précisément, le choix de Dieu, c'est cette confiance que l'on donne dans le Seigneur. Le mot confiance vient du mot foi, précisément. Mais cette foi, elle est une confiance dans ce que nous avons reçu. S'il est un danger dans la foi de, au fond, de ne pas accueillir et de passer sous silence ce don de Dieu, il est un autre danger, c'est de piocher dans la foi ce qui nous arrange, entre guillemets. Parce qu'évidemment, dans les valeurs évangéliques, ces valeurs évangéliques, elles sont passées à notre société, en tout cas à notre société occidentale, comme la miséricorde, par exemple, le pardon, pas besoin d'être chrétien pour pardonner, ou alors le sens de la fraternité, le sens de la communion, le sens de l'amour, tout ça, toute valeur évangélique. Mais tout ce qui est plus exigeant, tout ce qui me paraît plus difficile, d'aimer son ennemi comme soi-même, ou alors dans la vie matrimoniale ou familiale, la fidélité, l'engagement pour toujours, eh bien, on a le risque de faire un tri dans sa propre vie de foi et de découvrir au fond que, ben voilà, je choisis ça, mais j'ose l'autre chose. Et il y a eu la très bonne homélie du pape Benoît XVI lors des JMJ à Cologne. Cette homélie de Benoît XVI qui disait, attention, quand une foi que l'on se construit soi-même, sur quoi va-t-elle s'appuyer quand viendra le moment d'épreuve? Parce que précisément, la foi que l'on se construit soi-même, eh bien, elle n'a de force que notre propre cohérence et notre propre logique. Et donc, quand viendra l'épreuve du doute, par exemple, eh bien, voilà, est-ce que je vais m'appuyer moi-même? Et moi-même, je suis dans une perturbation intérieure, et donc, du coup, je vais... Et justement, le fait d'accueillir une foi qui nous est transmise, et non pas une foi que l'on se serait fabriqué à notre image et ressemblance, eh bien, ça nous donne une force. Cette foi que nous avons reçue, elle nous vient des apôtres. Elle nous vient des apôtres, elle nous a été transmise par toute une cohorte de saints, de martyrs, d'hommes et de femmes qui ont vécu de l'Évangile connu et inconnu. Donc, c'est tout à fait autre chose. Nous mettons nos pas sur un chemin où on marchait des géants. Au marché des géants. Donc le rôle du témoignage dans la foi, et c'est ça qui est important, c'est cette foi-là, elle s'appuie sur le témoignage des apôtres, retracé dans les Écritures, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament en général, et transmise jusqu'à ce jour. Alors oui, on peut, d'une certaine manière, dire que c'est bien plus facile de croire maintenant qu'au temps même de Jésus, évidemment. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ce témoignage de 2000 ans d'histoire, de sainteté, de prière, de travail théologique, de charité, qui nous dit, ben oui, c'est crédible, cette révélation manifestée en Jésus. Alors demandons, frères et sœurs, cette grâce particulière de nous redire vraiment le choix que chacun doit faire dans sa vie spirituelle, d'une foi profondément ancrée dans la révélation, dans la parole de Dieu, et qui nous conduit ensuite à poser des actes en conformité. Parce que, évidemment, une raison qui peut entraîner le fait que l'on ne désire pas approfondir sa foi, c'est que, ben, surtout, je ne veux pas savoir plus. Je ne veux pas connaître davantage. Parce que si je connais davantage, et qu'ensuite ça me demande un changement, vous voyez, il y en a qui raisonnent un peu comme ça. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, comme je vous le disais au départ, cette miséricorde dans l'Écriture, l'Évangile qui nous a été manifesté, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Jésus qui en parle, hein, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, lui seront maintenus. La miséricorde, c'est aussi un acte de foi. La miséricorde, ça veut dire du cœur pour la misère. C'est ça que ça veut dire, avoir du cœur pour la misère. Or, j'allais dire humainement parlant, psychologiquement parlant, la misère de l'autre me repousse, je veux dire, la fragilité de l'autre, les défauts de l'autre, toute son humanité blessée ne m'attire pas, au contraire. Mais c'est la miséricorde qui est mue par la foi, qui va rentrer en acte et qui va nous permettre nous-mêmes de nous rendre compte, premièrement, que nous sommes pardonnés, et combien nous sommes pardonnés, mais aussi combien nous avons à avoir cette attitude de bienveillance, hein, face à nos frères et sœurs, particulièrement les plus proches. Alors demandons au Seigneur cette grâce de la foi, cette grâce de la miséricorde qui témoigne de la foi pour pouvoir annoncer les merveilles d'un Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen.